Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand une amie t'annonce sa grossesse?
Lâcheuse.
Moi aussi, je me suis dit ça de nombreuses fois. Mais après un long cheminement ayant impliqué la congélation de mes ovocytes à l'étranger, parce qu'on ne sait jamais, j'en suis arrivée à la conclusion que je ne souhaitais pas avoir d'enfant. Je suis donc une nullipare, terme qui désigne en biologie les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Et j'entends bien le rester. Cette décision m'incite à réinterroger mon rapport avec mes amies devenues mères et toutes celles qu'ils deviendront. Parce qu'il va bien falloir que je me débrouille pour que cette incroyable bande de lâcheuses ne m'abandonne pas définitivement au bord du chemin. Nulli par ailleurs. Une création documentaire d'Alice Audrezel.
Le bouton, ta gueule.
Ah, moi, je vais passer comme ça.
Ça les meufs ?
Ouais, ça va.
Toi, ça va, Alice ?
Ouais.
On a fait votre
commande
déjà ?
Non.
Moi, je voudrais un Perrier avec du jus de citron.
Ouais, sirop. Ouais, sirop.
Ouais, puis je te fais un audio parce que j'ai aucune main libre. Voilà. Voilà, comment ça se passe? Écoute, j'ai des hémorroïdes de ouf. Ah ouais, je commence avec le truc le plus glauque. Je te raconterai, mais en gros, j'ai eu une déchirure, quoi. Mais apparemment, comme c'était une petite, c'est mieux qu'une coupure épisio, quoi. Mais bon, voilà, j'ai quand même 2 points de suture, c'est pas énorme. Le truc a été bien fait, c'est hyper propre et tout, voilà. Et bien sûr, j'avais avant des hémorroïdes et là, j'en ai 4 fois pire. Donc en fait, la récupération, elle est au niveau des fesses, pas au niveau du vagin et de l'utérus. Sinon, je suis hyper contente, j'ai retrouvé mon bide quasiment d'avant grossesse, donc ça je suis trop contente, il est mou, c'est pas grave, je suis hyper contente d'avoir retrouvé toute la mobilité, je peux me plier, je peux truc, enfin franchement à la fin ça devenait chiant. Et sinon avec le petit, écoute, je suis assez contente parce que j'ai un format, un modèle pas trop relou, mais il paraît que ça dure pas, donc en fait il se réveille vite fait, tu le fous au sein, il bouffe, il se rendort. Mais voilà, après j'ai un truc nouveau qui arrive, mais je pense que c'est avec les hormones, j'ai hyper peur de la mort subite du nourrisson. Alors je sais pas pourquoi, parce que tu vois, je suis pas non plus dans le méga care et des trucs comme ça et tout, enfin voilà, je pense que le seul truc qui arrive là, c'est cette espèce d'instinct de... pas instinct maternel, parce que tu vois, je suis pas... tu vois, hier je suis sortie à la pharmacie, j'ai revécu quoi, et j'avais pas de culpabilité à le laisser ou de trucs de machin, mais par contre genre, j'ai des angoisses de mort subite du nourrisson quoi, genre ça m'empêche de dormir, genre je me lève pour checker qu'il respire, et surtout en fait quand tu le vois, le truc c'est un tétard quoi, enfin tu vois, tu fais le moindre mauvais mouvement, tu le casses quoi, enfin c'est vraiment tout petit. Voilà, il est quand même mignon, je suis attendrie, c'est cool, mais tu vois genre là j'ai un peu envie d'allumer mon ordi quoi, je... voilà.
Cette note vocale, elle m'a été envoyée par mon ami Wafa, juste après l'évolution Pokémon, de nullipare à primipare. Je me rappelle très bien du moment où Wafa m'a annoncé sa grossesse et des sentiments que j'avais éprouvés. Je me suis demandé si ce genre de réaction était partagé, parfois, par d'autres irréductibles nullipares.
Niveau 1. Jouons à faire semblant. Youpi!
D'une part, j'ai besoin d'être entourée et effectivement, je pense qu'une des premières choses que je me dis, c'est que ce sera quelqu'un qui sera moins là.
Julia, nulli parisienne.
Qui sera moins là pour moi, avec qui je ferai moins de choses. Si tout le monde fait des enfants et pas moi, en fait, c'est moi qui vais me retrouver inadaptée au mode de vie de ces gens-là. Et on ne m'invitera pas au week-end parce que... on se dira que ça me fait chier de me lever tôt, que j'ai pas envie de ça. Et donc moi, je vais me retrouver toute seule avec mes chats, quoi.
Miaou.
Et puis comme je pense qu'aussi, quelque part, j'ai aussi envie de fonder une famille, il y a un petit côté d'envie, une petite envie qui se manifeste. Donc ça me fait chier.
Tu l'exprimes, qu'est-ce que tu dis? T'as une petite phrase toute prête à dégainer?
Ah, mais c'est génial! C'est un accident? Non, je déconne, je me contente de dire que c'est super, que je suis très contente.
Youpi!
Je suis un peu plus âgée que toi, et en fait, les premières fois où on m'a annoncé des enfants à venir, c'était il y a 20 ans.
Béa, nullipare à vie.
Quand on m'annonce une naissance à venir, c'est un peu la révolution à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'on m'annonce que je vais perdre quelque chose. Donc je vais perdre les modalités de notre relation. Et donc, Donc je pars sur quelque chose que je maîtrise pas, je sais pas comment ça se passera une fois que l'enfant sera là. Je connais pas mes amis en mode parent, donc j'ai un peu l'impression que ça va être une nouvelle personne potentiellement. Donc voilà, donc en fait, je pense que quand on m'annonce ça, j'ai toujours cette angoisse que peut-être ça va basculer du mauvais côté et que il faut que je fasse une sorte de deuil de ce que j'ai vécu avec cette amie avant. Et puis en même temps, j'ai aussi... je suis super contente parce que quand on m'annonce une naissance à venir, en général, ça rend extrêmement heureux le couple qui me l'annonce. Et donc, je suis aussi extrêmement heureuse pour mon amie. Donc, c'est quand même beaucoup d'ambivalence que j'essaye vraiment pas de montrer. Je le cache véritablement avec vraiment une bonne dose de gaieté. Puis, elle est pas feinte, en fait. Je suis vraiment très contente pour la personne.
Moi, il y a des grossesses pour lesquelles je suis contente et d'autres moins.
Annabelle, nulli parano.
Par exemple, j'ai une copine. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment heureuse parce qu'on se connaît depuis l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça. Et à partir de ses 15 ans, elle a vraiment commencé à dire qu'elle voulait absolument avoir un enfant. Mais c'est pas genre juste un objectif dans sa vie et rien d'autre. Cette meuf-là est un modèle de vie pour moi. Dans le sens où c'est une working girl, une meuf hyper libérée sexuellement, etc. Et en fait, les années passées, et elle enchaînait les aventures sans histoire, et c'était pas un problème pour elle. Elle savait qu'elle allait avoir un enfant un jour. Et à côté de ça, elle a rencontré l'homme, apparemment, qui était l'homme de sa vie. Elle m'annonce 6 mois après qu'ils vont se marier. Et déjà, je trouve pas ça bizarre de vouloir se marier, parce qu'en fait, je sais que cette meuf est tellement sûre d'elle, elle sait tellement ce qu'elle fait, que ça va aller. Et quand elle m'a dit « je suis enceinte », mais j'avais limite envie de pleurer parce que j'étais trop heureuse pour elle. Parce que je savais que c'était vrai et sincère. Véritablement. Et en fait, il y a d'autres naissances qui me font le même effet que les annonces de mariage, d'ailleurs. Où je suis pas forcément toujours heureuse pour la personne quand elle m'annonce qu'elle va se marier. Et encore pire après ce mariage quand elle m'annonce qu'elle est enceinte. Parce que pour moi, c'est pas vrai et que c'est une erreur et que j'imagine déjà l'enfant avec des parents divorcés après. Je prends pas ça comme un acte vraiment de l'amour et super beau dont je suis hyper fière. Tout ça vient de mon cerveau, elles m'ont pas dit ça, mais c'est comme ça que moi je le ressens vraiment. Et du coup, toutes les 2 semaines, j'avais une nouvelle annonce de grossesse et franchement, je faisais semblant quoi. Et en plus, j'ai affaire à des personnes qui ont pas forcément toutes des thunes. Enfin, je sais pas, moi, je pense à un truc hyper terre-à-terre de comment tu vas le nourrir, dans quel monde il va vivre, etc. Et est-ce que t'es sûre de vouloir ça ou est-ce que t'es pas en train de suivre un effet de mode? Parce qu'il y a toutes les meufs de ton âge qui sont en train de faire un enfant et que du coup, ton seul moyen d'exister et d'appartenir à une société, c'est aussi de faire un enfant. Tout ça se passe dans mon cerveau. Je ne sais pas si c'est la réalité en ce qui les concerne, mais en tout cas, c'est ce qui fait que moi, j'arrive pas à être hyper heureuse pour elle. Quand toutes ces naissances sont arrivées, c'était un moment où moi aussi, dans ma vie, j'avais vraiment besoin de m'occuper de moi. Donc, j'étais pas disposée à être heureuse pour les autres. Du coup, j'ai envoyé des messages en disant « Ah, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est super !» Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'elles étaient tellement obsédées par leur grossesse et leur truc magnifique que moi aussi, je vivais des choses de fou, où j'étais en train de quitter mon boulot, de partir à l'aventure et tout ça. Et j'ai même pas partagé ce qui m'arrivait, moi, dans ma vie, parce que je considérais que ça allait... paraître hors sujet et que c'était pas, c'est pas considéré comme aussi important qu'un bébé qui arrive au monde, en fait.
Ce que je voulais dire, ça devrait être interdit, les baby showers, d'accord?
J'en ai fait 3 et ça m'a suffi et stop. Je fête le bébé qui n'est pas encore là et avec les jeux les plus débiles qui soient. Le gâteau en couche-culotte, donc il ne sert à rien, tu peux pas le bouffer. C'est nul, je ne couche pas. C'est débile.
Donc c'est juste une imbrication de couche-culotte?
C'est ça. Ils appellent ça un gâteau. Donc c'est de l'arnaque totale.
Mmh. C'est une sculpture.
Il y a un vrai gâteau avec qui vient ou pas?
Après oui, t'as quand même des gâteaux et tout. C'est un peu l'aspect sympa où tu peux bouffer, tu peux pas picoler, ou alors tu fais les clans.
De toute façon, c'est à 15h.
C'est à 15h, voilà.
Histoire de bien bouffer.
Donc ça bouffe l'après-midi. Et tu peux avoir des petits défis de dégustation de peau.
Ah
oui.
De peau de bébé.
De peau de bébé. Mais le pire, c'est qu'on bandait les yeux et tu devais mettre la couche. Un bébé, évidemment.
Une poupée, quoi.
Le plus vite possible.
Vous n'avez jamais fait ?
Qu'est-ce que tu penses que j'ai pensé, alors soit quand tu m'as annoncé ta grossesse ou soit quand tu m'avais parlé du projet de bébé ?
Je pense que tu n'étais pas surprise.
que tu t'attendais un peu à ce déroulement dans ma vie personnelle.
Iris, primipar, baby.
De manière générale, comme j'ai l'impression que tu vas me soutenir peu importe mes choix de vie, j'avais pas du tout d'appréhension en fait, dans le fait de t'en parler ou de... Non, j'avais pas de barrière ou pas d'appréhension. Je me suis juste dit quand même que comme je sais que tu as de plus en plus d'amis autour de toi qui deviennent maman et que toi, c'est pas forcément un projet que tu as pour toi, je me suis juste dit que j'avais peur que tu dises « Ah oh mince, une de plus, une de plus qui devient maman et puis qui va être moins disponible ou pas disponible de la même manière ou qui va peut-être être trop dans des sujets de maman. Mais bon, je savais que ça ne changerait rien entre nous, que tu t'adapterais et que... voilà.
Iris a raison. La norme sociale est de son côté, puisque la société n'a pas franchement prévu qu'une femme ne se reproduise pas. Il est donc clair que ça va être à moi et à toutes les autres nullipares de nous adapter à nos amis qui ont des enfants. Mais avant d'activer le mode agilité, je me suis quand même demandé ce que c'est l'amitié pour voir si ça vaut vraiment la peine de se coltiner dégoûté.
Niveau 2. Amusons-nous.
C'est quoi l'amitié ? Alors, on pourrait dire que c'est une relation asexuelle et aromantique avec une autre personne. Mais au-delà de ça, l'amitié, c'est quelqu'un dont tu as besoin dans ta vie. C'est la personne qui, quand elle est là, la vie, c'est mieux. Que ce soit à travers des activités, des discussions sans fin. Ouais, je pense que globalement, c'est ça. C'est des gens avec qui la vie, c'est mieux.
Mon amie Elsa, multipart, a savamment compartimenté sa vie de mère et le reste de ses activités parce qu'elle ne blague pas avec l'amitié.
Alors, c'est une forme d'amour. Je trouve ça assez étonnant qu'on la minimise, cette forme d'amour-là, par rapport à l'amour amoureux, peut-être, dans le couple, dans tout ça, parce que je pense que c'est plus fort, finalement, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est sans... Il n'y a pas de contrepartie, enfin voilà, il n'y a pas en général en amitié de relations sexuelles, de relations dans le couple, de tout ce que ça peut inclure. Et donc, pour moi, il y a presque quelque chose de plus pur peut-être dans l'amitié. Donc, j'avoue que c'est quelque chose qui me fascine assez et qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et donc, surtout au niveau de l'amitié féminine, en fait, qui je pense est quelque chose que dont notre société ne voit pas l'importance capitale.
Par exemple, si ce soir je vais vraiment pas bien, en gros, qui est-ce que je pourrais appeler ?
Solène, nullipare newbie.
Je pense que je pourrais dire deux noms, mais ces deux noms, ils sont assez récents. Enfin, c'est vraiment des personnes qui sont ultra importantes dans ma vie et qui sont extraordinaires et que j'ai vraiment la chance de côtoyer. Et c'est peut-être la notion de ce qu'on appelle meilleur ami, mais je pense que c'est unilatéral. Quoique non, il y en a un. Non, il y en a un, il m'a dit que j'étais aussi sa meilleure amie. Ouais. C'est important de se dire ce genre de choses. On se les dit, quoi.
C'est trop mignon.
C'est marrant parce que parfois, ça me saoule.
Putain, c'est vraiment... Ça, c'est parce que je suis Gémeaux, d'accord.
Du coup, quand ils sont là et qu'ils remplissent, entre guillemets, leur devoir de meilleure amie, parfois, j'ai envie de les repousser, de leur dire « Non, mais c'est bon, en fait, on était mieux quand on avait justement cette relation de se voir de temps en temps, on prend un verre, on se dit « Ah, comment était le boulot ? Ouais, super, génial, et toi ? Ouais, trop cool. » Voilà, point.
Attends, mais tu comprends
le... Oui, je comprends. Mais du coup, c'est quoi ce rôle de meilleure amie ? C'est quoi ces activités ou ces choses qu'ils font qui t'agacent ou te semblent, je sais pas, intrusives par moment ?
C'est la charge émotionnelle que ça représente.
C'est un peu ça qui m'inquiète. La charge émotionnelle à absorber face à une jeune maman. Pour que tout le monde comprenne bien ce que ça représente, voici un petit avant-après l'évolution Pokémon de Wafa au sujet de son choix de poussette.
Tout le monde me disait il faut acheter une yo-yo, donc j'ai analysé le marché. Je me suis rendu compte que la meilleure poussette actuellement, c'était le modèle Yo-Yo 2, qui est le dernier modèle. Donc je me suis dit, moi, de toute façon, si j'achète le meilleur modèle, non pas parce que je veux le meilleur pour mon enfant, mais parce que je me dis, quand je vais vouloir la revendre, il faut qu'elle ait une valeur de marché. Et là, sur Le Bon Coin, sort une annonce, une yo-yo 2 avec le pack Milk. Alors le pack Milk, c'est une association de la marque Yo-Yo Baby Zen avec une marque Milk, alors que je connais pas, qui est apparemment une marque de trucs pour bébés. Ils ont fait un espèce de pack en couleur qui est moche, mais qui est très recherché parce qu'il est rare. L'avantage de la Yo-Yo, c'est que tu peux changer les couleurs en changeant le siège et l'espèce de canopée, le truc qui couvre. Hein. Et du coup, tu peux les changer et ça te change toute la couleur de la Yo-Yo. Donc la nénette vendait une Yo-Yo 2 avec un pack Milk, avec une ombrelle, donc qui est un accessoire qui se revend, donc voilà, et le tout pour 200 euros. Bah, fallait négocier le prix, quoi. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim.
Bon alors, est-ce que c'était un bon achat, cette poussette yo-yo ?
En fait, je me rends compte, même si elle est cool et elle est ultra pratique, maintenant j'ai peur de me balader avec elle dans la rue parce que j'ai pris un super modèle. J'ai hyper peur qu'on me la pique avec le bébé dedans. Genre quand je la sors, c'est stylé, les gens regardent. Enfin, je sais pas, je me sens vulnérable, quoi. Je sais pas, maintenant je vois le monde. Je pense qu'il y a des gens horribles, hein, qui agressent des vieilles pour choper un téléphone, qui sont sans foi ni loi. Et je me dis, bah, peut-être qu'ils m'agresseront pour avoir la yo-yo, je sais pas. Alors du coup, ça me fait peur. Je me dis, ah ! Et je me suis aussi rendu compte qu'elle avait une petite faiblesse. C'était le bébé qui regardait la rue et qui regardait pas les parents. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gros chiens. Non, mais c'est des peurs qui arrivent. J'ai hyper peur qu'il y ait un chien qui bouffe la tête de mon gamin. Et du coup, je sais pas pourquoi. Je sais que ça arrive. Il y a plein d'agressions de chiens sur les enfants. Pareil, là, je me dis que le bébé, il est vulnérable en étant face au monde et pas face à la maman. Donc voilà, petits défauts qui viennent avec la pratique et qu'on réalise après.
Mode adaptation activé.
Je pose plein de questions.
C'est vrai que les cheveux poussent plus vite ?
Est-ce que t'es malade ?
Vous avez acheté une poussette ?
Est-ce que t'es tombée facilement enceinte ?
Tu vas allaiter ?
Est-ce que vous avez déjà repeint la chambre ?
Vous avez trouvé le prénom ?
Crèche ou assistante maternelle ou nounou privé ?
C'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude avec Julia. Mais on doit pouvoir faire mieux que ça. J'ai demandé à Elsa, multipare très tôt, comment elle avait vécu et géré toute cette charge émotionnelle quand elle était une jeune mère.
Niveau 3. Apprenons quelque chose de nouveau.
Est-ce que tu te rappelles comment ça se passait avec tes amis nullipares à partir de la naissance de tes enfants ?
Je sais que moi, j'ai été assez sincère et honnête sur le fait que j'avais pas aimé mes grossesses, par exemple, ou que les enfants étaient insupportables quand ils étaient petits, même si je les aimais beaucoup. Mais quand ils étaient plus petits, je me sentais jugée. Alors, il pouvait y avoir une côté de parano et puis de pas assumer soi-même, en fait, d'avoir juste envie d'envoyer ses enfants dans le mur pour qu'ils se taisent, en fait. Là-dessus, je sentais que ça m'était mal à l'aise, les gens, et mes amis notamment. Mais avec beaucoup de bienveillance, je pense, mais elles essayaient toujours de me faire voir le verre à moitié plein, et du coup, j'ai arrêté d'en parler. Et donc, c'est vrai que c'est une partie où, là-dessus, je me sentais assez seule, par contre.
Ok. Et quand tu parles de choses que les gens ne pouvaient pas comprendre, tu parles de femmes qui n'avaient pas d'enfants ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous dites de spécial avec tes amis mamans ?
Alors, je me rends compte que quand je prends des verres maintenant avec des gens qui ont des enfants, en fait, tout tourne autour des enfants, les conversations. En fait, c'est là où, je ne vais pas dire que les langues se délient, mais en fait, tu vois, par exemple, moi, Audrey, j'ai jamais entendu parler de ces trucs de baby, de comment ça s'était passé. Je me doutais que c'était difficile, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de récit. Mais je me rends compte que maintenant, comme je traverse le même truc, du coup, on en parle sur la détresse psychologique. Juste le fait de le dire et de le verbaliser, ça permet de souffler un peu et de se dire « Ok, on traverse tous le même truc, c'est horrible, c'est injuste, mais au moins on se sent un tout petit peu moins seul, quoi. »
Et du coup, la naissance de ton fils, ça t'a rapproché de tes amis mamans ?
J'en ai une, ouais, c'était plus pote slash collègue. Elle vit pas dans le même pays. Et ce qui est marrant, c'est que elle, avec le décalage horaire, du coup, quand moi j'allaite la nuit, elle est réveillée. Donc quand j'envoie un message, elle répond. Et avec l'autre pote, on a un peu les mêmes créneaux d'allaitement la nuit. Et donc pareil, quand je lui envoie un message à 3h du matin, elle me fait « Ah, toi aussi, t'es en train de téter ?» Je fais « Bah ouais, c'est tout con, mais ça permet de se sentir moins seule quand on est en train d'allaiter à 3h, 4h, 5h du mat, que tout le monde est en train de dormir et qu'on a une espèce de gnome qui est en train de nous pomper le sein et ça fait mal et on est obligé d'attendre qu'il ait fini. Bien sûr, de fait, ça rapproche, quoi.
Nya, 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 nya. Je vois. Bon, si je comprends bien, il faudrait essayer de s'intéresser un peu plus aux enfants des amis mamans. C'est quoi ton rapport à ces petits êtres de lumière, toi, Solène ?
J'ai toujours une sorte de petit détachement par rapport à ça, la chose. la bestiole.
Tu l'as touché ?
Non, 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 il dormait. Même imaginons, il m'aurait demandé si je voulais le porter, ça aurait été tellement non direct. Je vais être cash, mais ça ne m'intéresse pas du tout. C'est super, il est là, on peut en parler, aucun souci, mais il n'est pas obligé d'être sur moi. Je ne vois pas l'intérêt qu'il soit, que je le touche ou que je sois en contact avec lui.
Quand tu dis que ça ne t'intéresse pas, c'est le bébé qui ne t'intéresse pas ou c'est tous les sujets périphériques autour du bébé ?
Je ne peux pas dire non plus que le bébé ne m'intéresse pas, mais en même temps...
Il n'y a pas de
règle
qui
interdit
de dire ça.
Non, c'est sûr. Non, mais c'est vraiment un juste milieu où je suis à la fois très contente qu'il soit là, mais il ne serait pas là, je serais aussi très contente. Il n'y a pas de manque ou de quoi que ce soit.
Jusque-là, tu as l'air normal.
Ouais, c'était neutre. J'ai déjà vu des amis se transformer complètement parce qu'il y avait un bébé et qu'elles pouvaient le mettre sur leur jambe ou quoi, ou un peu jouer avec. Moi, ça ne me fait strictement rien, ce genre de choses. Enfin, oui, je vais dire, ah, ok, il ou elle est mignon, point neuf. Mais sinon, voilà, ça s'arrête là. J'ai l'impression d'être un monstre sans cœur.
Moi aussi, je suis un monstre sans cœur. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Nulli par Psycho pour maintenir le lien avec nos amis mères ?
Peut-être qu'en fait, tout ce qu'on voudrait, c'est peut-être juste une oreille, en fait, tu vois, juste quelqu'un qui nous écoute. Nous plaindre, dire que nos enfants sont chiants, qu'on est fatigués et qu'on aimerait avoir du temps pour nous, pour regarder une série ou je sais pas, ou n'importe quoi. Il y a des fois, t'as juste envie d'évacuer des trucs et juste qu'on t'écoute d'une oreille compatissante en te tapotant sur l'épaule en disant « je suis désolée pour toi, en fait ».
Ok, donc tout ce qu'on peut faire, nous, en tant que Nulli par, c'est vous tapoter sur l'épaule en vous plaignant, parce que de toute façon, il n'y a que les autres mamans qui vous comprennent.
Non, mais ouais, effectivement, quand on est des femmes, cette question de la maternité, ça vient forcément chambouler l'amitié. Je pense accepter que ce sera plus jamais exactement la même relation, parce que c'est plus la même personne que t'as en face de toi, mais d'en discuter toutes les deux. L'amitié, c'est aussi du travail d'équipe. Je pense qu'une maman prend beaucoup de place et que t'as le droit de prendre autant de place qu'elle, en fait. Après, la personne saura ou non l'écouter, mais toi, t'as fait ta part du truc.
Comme les potes qui t'invitent à dîner et qui te disent bah viens à 18h30 comme ça tu verras machin truc.
Oui.
Bah non, en fait j'ai une vie samedi 18h30.
Ah moi aussi je déteste
systématiquement ça. J'oublie et je me pointe à 21h.
Et ben je fais la même chose même si je me dis oui mais je sais pas, c'est peut-être inconscient, j'arrive pas à...
Putain, mais je suis tellement plus folie que vous. Je me force à venir à l'heure qui ne m'arrange pas du tout pour voir un enfant que je n'ai pas du tout envie de voir et qui va clairement polluer la conversation et qui en plus va être couché plus tard si tu es là.
Bien sûr. Alors l'année dernière, je vais dîner chez une de mes potes qui a deux enfants. Enfin, ton animal est né à 3 ans. On se pointe, il est 20h30. Machin truc, oui. Toujours debout pour prendre l'apéro avec vous. Pourquoi ? Déjà, à 3 ans, est-ce qu'elle est toujours debout à 20h30 ? C'est-à-dire, voilà.
Et comment va-t-elle prendre l'apéro ?
Du coup, elle s'est couchée méga tard. Du coup, comme elle était fatiguée, elle était relou, elle a réveillé sa petite sœur qui dort dans la même chambre qu'elle, qui ensuite, enfin, tu vois, c'est un cercle qu'on a passé à table à 22h30.
On s'amuse bien !
Au-delà de ces questions purement logistiques, moi, je me demande de plus en plus quoi dire lors de ces dîners. Comment tu gères ça, toi, Julia ?
Moi, j'ai plutôt eu l'impression que tout d'un coup, on était contents de me voir parce que justement, on allait pouvoir parler d'autre chose. Ah, on va pouvoir, il y a une adulte qui vient manger à la maison ce soir et on va pouvoir parler des autres copains, des actus, d'autres choses, quoi. Quelque part, ils en ont envie. Enfin, moi, je le ressens parfois comme ça. Et en fait, c'est presque moi qui délaye. Et en me disant, c'est facile de maintenir la relation via cette discussion sur l'enfant. Je sais que, par exemple, j'ai toujours énormément de mal à parler de moi de loin en loin, tu vois, quand tout d'un coup, j'aborde le moment, et toi, comment tu vas, et que ce soit sur ma vie pro, perso, je trouve ça toujours hyper laborieux de devoir raconter ma vie.
Alors moi, du coup, j'ai une autre crainte, parce que clairement, je sais que je ne vais pas surenchérir à l'infini sur l'enfant. Du coup, je sens bien ce côté, les nouvelles extérieures et tout, la petite excitation. Eux, ils ont envie d'entendre des histoires, des trucs d'adultes. Et j'ai peur d'être prise au piège de ce truc de « on va l'inviter pour avoir du spectacle ». Ça me plaît un peu, puis je pars et puis j'ai un peu honte. Tu vois, je me dis « tout déballé, c'est nul
». Ouais, je sais que ça me fait ça aussi parfois. Où, Tu vois, parfois, je me dis, merde, en fait, je cultive cette image-là de la Parisienne sans vie structurée. C'est sûr, Julie, elle va encore nous raconter sa soirée, son fail amoureux, son date raté. Mais en fait, je pense que c'est dans ma tête.
Niveau 4. Essayons de formuler une conclusion. J'ai compris trois choses en réalisant ce documentaire. La première, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus pragmatique. Comme le suggère Pénélope, nulle part provisoire.
Non, moi j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui est à côté de toi à un mariage, que tu vois une fois tous les 5 ans et tu lui dis comment vont les enfants, il dit tu peux voir une photo, c'est bizarre de dire non. Et du coup, moi je dis oui, mais je cadre en disant d'accord, montre-moi 3 photos. Tu les vois qui disent ah ok, et qui sont hyper concentrés d'un coup. Et en fait, je pense qu'eux-mêmes, ça les fait marrer parce qu'ils se rendent compte qu'ils allaient t'en montrer plus.
Mmh. C'est bien.
Ça cadre.
Mmh. Ça cadre.
Ouais. J'aime bien.
Très, très bien.
La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que je n'ai certainement pas bien posé la problématique.
Le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, la société nous divise en 2 camps, en fait. On nous met dans des clans et derrière, on nous oppose et il y a une espèce de compète qui n'a aucun sens. Moi, en fait, finalement, je me sens souvent plus en décalage avec les mamans. Par exemple, genre les mamans de l'école, pour moi, c'est un film d'horreur presque, en fait, ça me terrifie. J'arrive pas du tout à rentrer dans ce moule-là. Soit il y a plein de camps, beaucoup plus, une multiplicité de camps, en fait. Soit il n'y en a pas du tout, parce qu'effectivement, on est juste plein de femmes avec des parcours différents, quoi.
La troisième chose que j'ai comprise, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet. Selon PokéScience, l'évolution d'un Pokémon, c'est pas seulement une question de matière et d'énergie, c'est aussi une question d'état d'esprit. Un Pokémon peut refuser d'évoluer pour des raisons diverses et variées. Manque de maturité, peur du changement, amour de la forme actuelle et orgueil sont parmi les raisons les plus fréquemment observées. Dans un de mes rushs, je me suis surprise à dire ça à Elsa.
Moi, parfois aussi, j'ai peur de regretter de ne pas avoir d'enfant. Et des fois, je me dis, j'ai peur de regretter d'avoir trop écouté mes amis qui ont des enfants et d'en avoir tiré la conclusion que je n'en voulais pas. C'est un peu brutal, mais... En fait, ça fait 10 ans que j'écoute des femmes qui ont des enfants, qui m'ont parfois décrit une grande détresse. Et à un moment, par réflexe de protection, je me suis dit, mais enfin, je ne vois pas pourquoi je me mettrais de mon plein gré dans cette situation-là.
Merci les meufs. Vous m'avez décrit sans phare l'expérience de la maternité et vous m'avez ouvert les yeux. Sans rancune.
Chantons. Les bananes et les oranges, c'est délicieux. Quel fruit préfères-tu ? Sucré et savoureux, lequel mangeras-tu ?
C'était Nulle part ailleurs, une création documentaire d'Alice Audrezet, réalisée avec le soutien du collectif Transmission. Merci à toutes mes amies Nulli, Primi et Multipart à part, à Annabelle pour le coaching vocal, à Quentin pour le denoise, à Ziad et Ayoub pour le mixage. Et encore une fois, merci à Solène et Julia pour le visuel de couverture.